finalement, on a rentré en négociation. Les propriétaires étaient un private equity à New York. Puis j'ai voyagé à New York. On était là au 72e étage, looking over Central Park. J'étais là avec le partenaire. Il me disait, hey, kid, you're younger than I thought. What's your number? Donc, c'est quoi votre prix? Et là, j'ai mentionné le plus grand chiffre que je pouvais imaginer, dire sans rire. Il me disait, bon, OK, parfait, on fait un deal.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 74e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Depuis plusieurs temps déjà, on reçoit des entrepreneurs technologiques sur Hypercroissance qui nous parlent des trucs et astuces qu'ils utilisent afin de passer leur organisation en vitesse supérieure. Maintenant, il est rare qu'on reçoive des chefs d'entreprise qui ont fait l'exercice plus d'une fois. J'ai donc la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Adrian Schauer, président et fondateur de Alaya Care, une plateforme technologique qui œuvre dans le domaine des soins à domicile. Lancée en 2014, l'organisation qui compte maintenant plus de 400 employés est en voie de devenir le leader incontesté dans son domaine en ayant levé plus de 100 millions de dollars depuis sa fondation. En plus du succès d'Alaya Care, Adrian partage avec nous aujourd'hui comment il a bâti et vendu coup sur coup Vortex Mobile et Vortex Connect au début des années 2010. Sans plus attendre, ma discussion avec Adrian Schauer. Adrian Schauer, vous êtes le président et fondateur de l'entreprise Alaya Care, une plateforme technologique qui œuvre dans le domaine de la santé et qui emploie à ce jour plus de 450 employés répartis au Canada, aux États-Unis et en Australie. Avant de fonder Alaya Care en 2014, vous avez bâti deux organisations technologiques leaders dans leur domaine qui ont été acquises respectivement en 2010 et 2012. En plus de votre carrière d'entrepreneur très chargé, vous êtes également investisseur dans plus d'une demi-douzaine de startups technologiques et vous avez également lancé une fondation en 2009 avec votre femme, encore une fois axée dans le domaine de la santé. Adrian Schauer, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
C'est Antoine.
Adrian, avec votre carnet de route autant chargé et impressionnant, comme je le disais dans l'intro, j'aimerais commencer l'entretien aujourd'hui avec une seule question très simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous lancer en affaires en 2005?
Donc, je viens de famille assez entrepreneuriale. Avec mes parents, les deux sont des immigrants. Mon père venait d'Autriche et puisqu'il pouvait pas trouver emploi à Montréal dans les années 60, il a démarré une compagnie d'ingénierie mécanique. Fait que j'avais un peu ça dans le sang. J'avais toujours en tête d'être ingénieur puis un jour de lancer une entreprise moi-même. Donc, c'était juste une question de trouver le bon moment, de bonne idée.
Puis, la première organisation, ça a été Vortex Mobile en 2005, si je crois bien, où il y a eu d'autres projets avant ça.
Ça, c'était la première tech startup que j'ai fait. J'avais, avec quelques amis en université, participé dans un startup qui s'appelait CourseCram, qui était vraiment pour aider les étudiants avec à préparer pour les examens. C'était des petites entreprises qu'on a essayé de démarrer.
Je comprends très bien. Puis bon, Vortex Mobile, parlons-en un peu parce que c'est important de le mentionner à l'audience qui nous écoute aujourd'hui. L'organisation a été fondée en 2005. Vous avez amené une certaine croissance à cette organisation-là avant qu'elle soit acquise, et corrigez-moi si je me trompe, en 2010 par l'organisation Transcontinental. Parlez-nous un petit peu de cette organisation-là. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quels clients elle desservait? Et quelle croissance également vous avez eue avec l'organisation?
Donc, Vortex Mobile, je l'ai démarré avec un partenaire, Brady Murphy, aussi un Montréalais. On a joué au basket ensemble en cégep et on s'est retrouvés à Toronto après l'université. Donc, moi, je travaillais pour Rogers, le département sans fil. Je faisais du New Product Development. Et lui, il travaillait en marketing pour un. Donc, on a vraiment mis ensemble une compagnie de marketing mobile. Mais l'idée a commencé, c'était en fait une idée qui était pas très belle d'avoir un subscription list pour les clubs et les bars pour faire rentrer du monde à last minute.
OK.
Là, on a creusé un peu dans cette idée, puis on a vu ce qui était intéressant, c'était pas vraiment la communauté, de créer la communauté, mais plus la technologie en dessous. Fait qu'on a fait un pivot avant même de démarrer le business, de créer de la technologie pour que les marques peuvent connecter avec à travers leur téléphone mobile. Et il faut garder en tête, en 2004, c'était SMS, il y avait même pas de smartphone. Quelques BlackBerry dans les entreprises, mais c'était vraiment tout.
Exact, c'était au début seulement. Je pense que le iPhone est arrivé en 2007. Donc, vous lancez l'organisation en 2004. On est encore sur des téléphones, on va dire, un petit peu anciens, là, qui sont pas des téléphones mobiles comme on a aujourd'hui. Donc, à partir de là, bon, je comprends un petit peu, l'entreprise a eu un pivot dès le départ. Et comment cette entreprise-là a grandi au cours des années, au moment de la vente que vous avez faite en 2010? Combien d'employés vous étiez rendu? C'était quoi à peu près la grosseur de l'organisation?
Donc, avec Vortex, c'était vraiment bootstrap. Donc, on a pris les 20 000 d'épargne qu'on avait. On avait 24, 25 ans. Et on l'a démarré dans le sous-sol de la maison où on vivait à Toronto. Et on faisait des cold calls. On vendait un client. On engageait un développeur, un autre client, un autre développeur. Fait que c'était vraiment bootstrap. Vortex Mobile avait à peu près 35 employés, mais on voulait vraiment créer une compagnie de logiciels qui vendait un abonnement business to business, un vrai SaaS business. Mais le marché voulait vraiment prendre des marketing campaigns au lieu d'un abonnement pour une technologie. Fait qu'on était un peu frustrés avec ça, mais on a eu une opportunité pour utiliser la même technologie, mais pour les communications entreprises envers leurs employés. Ce produit-là, on a fait un spin-off en 2009, et c'est ça qui a créé Vortex Connect, l'entreprise vraiment qu'on voulait.
Donc, dans ce cas-là, puis corrigez-moi si je me trompe, Vortex Mobile a été acquis en 2010 par Transcontinental. Et là, par la suite, qu'est-ce que Transcontinental est venu acquérir ici? Est-ce que c'était uniquement votre développement marketing, puis vous, de votre côté, vous gardiez, disons, certains développeurs et votre technologie et vous bâtissiez Vortex Connect?
C'est ça. Bien, en fait, en 2009, on a déjà sorti le produit de Mobile Workforce Management, puis on a créé Vortex Connect. Fait qu'il y avait déjà deux compagnies. Moi, j'ai pris Vortex Connect. Brady, mon partenaire, est resté avec Vortex Mobile. Fait que ce que Transcontinental ont acquis, c'était tout le business de marketing mobile. Moi, j'avais tout le business Mobile Workforce Management.
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez segmenté vraiment, vous aviez, on va dire, certains profit centers à l'intérieur de l'organisation. Et un de ces profit centers-là, bien entendu, c'était la technologie que vous avez amenée dans une entité qui est à part. Donc, ça, c'est intéressant. Et bon, on en vient un petit peu. On arrive à peu près aux alentours de 2010. L'organisation est acquise Vortex Mobile. Parlez-nous maintenant de Vortex Connect, parce que j'ai l'impression que ça, c'était davantage ce qui vous intéressait, sachant que vous avez pris le contrôle de cette organisation-là et que là, il y avait davantage d'initiatives technologiques.
C'est ça, exactement. Fait que Vortex Connect, c'était vraiment la compagnie que je voulais bâtir. business to business, software as a service. On avait comme client Nike, soixantaine de grands hôpitaux aux États-Unis. On avait les policiers à New York. On avait des oil rig workers dans le Gulf. Fait que c'était vraiment intéressant en tant que les clients qu'on avait. Et on avait un channel partner go-to-market. C'est-à-dire, on avait des partenariats avec Kronos, ADP, Workbrain, des compagnies pareilles. Puis on était le layer mobile sur leur plateforme.
Intéressant. Puis, cette organisation-là, quand vous l'aviez repris ou que vous l'avez même rebâti au début des années 2010, est-ce qu'il vous restait beaucoup d'employés encore de l'ancienne organisation ou seulement quelques-uns où vous avez rebâti l'entité complètement à part?
C'est ça. Quand on a séparé Vortex Connect de Vortex Mobile, il y avait peut-être 5-6 employés dans Vortex Connect. L'équipe de dev sur ce produit, puis peut-être un vendeur, c'est ça. C'est l'équipe fondateur, disons, de Vortex Connect. Et là, on a eu une belle croissance.
Donc, ça allait vite, là?
Ça allait vite.
Intéressant. Puis, bon, éventuellement, c'est ça, en 2012, c'est Red Prairie qui vient. Et encore une fois, vous faites une deuxième sortie en 2 ans à peu près. Comment que ça s'est déroulé? Comment ça se déroule, les négociations dans une sortie d'entreprise comme ça? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est dur un peu pour le mental?
C'est une belle petite histoire. Tous les grandes compagnies de workforce management, ou presque tout, étaient nos partenaires. Donc, quand il y avait un appel d'offres, chaque compagnie rentrait avec quelqu'un de l'IACARE pour démontrer l'application mobile. Tout sauf Red Prairie. Et ils perdaient beaucoup à nous parce qu'il n'y avait pas une belle application mobile. Donc, ils ont fait rentrer un nouveau CTO qui s'est rendu compte, là, on est behind, mais je peux faire une accélération, prendre l'élan par acheter Vortex. Fait qu'il m'a appelé et il a laissé un voicemail, mais on avait genre un système de digital voicemail et le courriel est allé à mon junk. Et moi qui passais, il a appelé encore, un autre voicemail, encore dans junk. Et finalement, juste autour de Noël, je regardais, c'est quoi là? Et j'ai vu les ces messages. Donc, on jouait hard to get, même pas en savoir.
Oh, wow!
C'est ça, finalement, on est rentré en négociation. La compagnie, les propriétaires étaient une compagnie de private equity à New York. Puis j'ai voyagé à New York. On était là au 72e étage, looking over Central Park.
Ah,
ouais. Avec le partenaire, il me disait, hey kid, you're younger than I thought. What's your number? Donc c'est quoi votre prix?
Ouais, exact.
Et là j'ai mentionné le plus grand chiffre que je pouvais imaginer dire sans rire. Et il me disait, bon, OK, parfait, on fait un deal. Et,
oh, wow.
C'est l'histoire de...
It wasn't hard.
Le bâtir l'entreprise, c'était pas difficile, mais la vente était facile.
Oh my God, ça, c'est incroyable. Donc, mais si on regarde un petit peu le business case ici, on s'entend que l'acquéreur, peu importe le prix, le nombre de clients et le nombre de business qu'ils perdaient en n'ayant pas une application adaptée, ou du moins c'est un petit peu ce que vous disiez plus tôt, ben là, ils allaient perdre plus d'argent que le chiffre qu'ils allaient vous donner au final pour faire l'acquisition d'entreprise. Donc, plus pour lui, plus ou moins, ça fait pas tellement de différence, non?
C'est ça. Fait qu'ils avaient, je te donne un exemple. Il y avait Walmart comme client. Et le contrat avec Walmart, ça paye déjà 25% du prix d'achat de l'entreprise. Fait que c'était, c'est un bon deal pour les deux.
Ah, ouais. OK, ça, c'est très, très intéressant de savoir ça. OK. Donc, bon, l'acquisition, c'est quasiment un rêve. Hein. On est à New York, 72e étage. On se fait offrir des... bon, on va dire, on connaît pas le chiffre parce que j'ai vu que c'était pas, ça n'a jamais été dit public, mais on peut assumer que c'était un chiffre qui était assez intéressant. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai été capable de voir dans votre parcours, puis c'est important là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Adrian est un entrepreneur en série, présentement PDG d'AlayaCare. AlayaCare, c'est une organisation technologique en forte, forte croissance. Ils ont levé des centaines de millions de dollars en financement. Et je pense que vous avez, comme on le disait un petit peu plus tôt en intro, 450 employés. Mais l'organisation a été fondée en 2014 et la vente Vortex Connect à Red Prairie a été faite en 2012. Donc là, il y a 2 ans. Qui vous sépare de votre prochain lancement, votre prochaine start-up technologique, votre prochain projet. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Est-ce que vous profitez un petit peu de votre argent? Est-ce que vous faites d'autres choses dans votre vie?
J'étais quand même impliqué à Red Prairie, qui s'est devenu JDA. J'étais le VP Innovation J'ai géré toute la division mobile et intelligence artificielle. Et fait qu'on était vraiment... j'étais impliqué dans la... C'était une entreprise de 2000 employés. C'était 2000 employés. Fait que c'était intéressant, mais c'était pas aussi intense que gérer un startup. Fait que j'avais un peu plus de temps de rêver c'est quoi que je vais faire en prochain. J'ai eu l'occasion de faire des investissements en tant qu'ange. Fait que c'était une très belle 2 années de vraiment voir c'est quoi qui m'intéressait. Mais à 2 ans plus un jour, on a lancé LiveCare. Mon cœur était toujours dans la vision d'entrepreneur.
Puis, je suis curieux, est-ce que vous aviez un contrat avec Red Prairie qui disait que vous deviez rester un minimum de 6 mois, 1 an, 2 ans? Est-ce que vous aviez un earn-out qui était déjà dans l'équation?
J'avais un commitment de 2 ans.
Ah, OK.
L'anniversaire de 2 ans, c'était un dimanche. Fait que c'était 2 ans plus un jour parce que on a lancé.
OK. Donc, on s'entend, vous alliez pas faire votre carrière chez Red Prairie. Là. C'était déjà clair dans votre tête à ce moment-là qu'on allait repartir un autre projet.
C'est ça. Au début, j'avais le vouloir vraiment de m'impliquer puis de faire ce que je pouvais avec l'entreprise. Mais après un bout de temps, je voyais c'était une grande machine. Puis beaucoup du développement était envoyé en Inde. Puis les valeurs de l'entreprise ne s'alignaient pas aussi avec mes valeurs que je voulais. Donc, c'est ça.
Intéressant. Puis, c'est quoi la genèse de AlayaCare? Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette organisation-là? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que quelque chose qui s'est passé dans votre vie, dans votre entourage que vous avez eu, que vous avez dit, là, tu sais quoi? Ma prochaine startup, ma prochaine organisation va être dans le domaine de la santé avec AlayaCare.
C'était pas si clair que ça. Il y a beaucoup d'histoires chez mes concurrents. Où ma grand-mère avait besoin de soins à domicile, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas de bon logiciel. C'était pas notre cas, vraiment. Là, j'avais une dizaine d'idées que je validais durant 2013-2014. Et le soin à domicile, je voyais que c'était un domaine en pleine croissance, un domaine où il n'y avait pas beaucoup de compagnies, de logiciels vraiment inspirants. Puis aussi un domaine où la technologie venait tard. Donc, je voyais vraiment il y avait une opportunité de créer un business qui va amener l'industrie un peu de pen and paper jusqu'à une moderne vie technologique. Fait que c'est ça qui nous a poussé.
Mais là, vous avez mentionné plus tôt que Vortex Mobile a été fondé sur un bootstrap total avec les moyens du bord. Mais là, à AlayaCare, ça a été fait un peu différent. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression que vous êtes arrivé avec plus de confiance, plus d'ambition dès le départ. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, plusieurs millions de dollars qui ont été levés avec cette organisation-là. Elle était quoi la vision au début? Est-ce que vous êtes tout de suite dit, là, on a de l'expérience, on sait qu'est-ce qu'on fait, on va tout de suite aller voir des partenaires financiers qui vont nous aider à accélérer la croissance?
C'était pas exactement comme ça, mais quand je regardais en arrière, et la potentiel que même que Vortex Connect avait, si on avait levé des fonds puis vraiment faire la potentiel du business, ça aussi ça pourrait être une compagnie de centaines d'employés. Mais on l'a vendu et quand je regardais en arrière, après 2 ans, la chose qu'on a créée était absorbée. Donc premièrement j'avais des sous que je pouvais investir dès le début, fait que ça nous a aider. Mais dans la communauté d'investissement, quand on a déjà un exit, même 2, ça devient plus facile de lever des fonds. Et là, j'ai pensé, OK, cette fois-ci, je vais pas me limiter mes ambitions, je vais lever des fonds.
Ça s'est fait dès le départ? Vous avez levé des fonds ou vous avez attendu d'avoir peut-être une preuve de marché?
Non, les premiers, la capitale en première, c'était le mien et mes deux cofondateurs. Après ça, on a fait un angel round et la première investissement institutionnel qu'on a fait avec Innovia, notre Series A, c'est en 2017, je crois. Fait qu'on était déjà sur le marché.
Pouvez-vous nous expliquer un peu aujourd'hui, spécifiquement, quelle est la mission de AlayaCare? Quel est le service que vous offrez? Donc, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, plateforme pour aider aux soins à domicile. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus?
C'est ça. Avec nos clients sont des agences de soins à domicile. C'est surtout des agences privées, malgré qu'on a des clients qui sont des public health authorities. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des organismes qui envoient des travailleurs en santé, des care workers, fait que soit des infirmières, des thérapeutes ou des préposés aux bénéficiaires, les envoient chez les patients, chez eux, dans leur maison, pour livrer les soins. Et notre plateforme gère tout le dossier clinique, fait tout la création d'horaires, la facturation, fait que c'est vraiment le mission critical system.
OK, donc littéralement un CRM quasiment intégré pour tout ce qui est au niveau de la gestion du dossier d'un patient, là.
C'est ça, exactement. En soins à domicile.
En soins à domicile, exactement. Comment que la COVID a affecté votre organisation? Parce que bien entendu, j'imagine qu'il y a eu à avoir des distinctions dans la manière que les soins à domicile sont donnés. Comment que ça s'est passé un petit peu cette dernière année, là?
Ah, c'était assez fou, là. Surtout en mars, avril, il y avait des patients qui avaient peur que quelqu'un rentre dans leur maison. Aussi pour les soignants, dès que le gouvernement me paye de rester chez moi, au lieu d'aller risquer ma vie, d'aller voir des patients chez eux. C'était vraiment difficile pour nos clients. Mais on a lancé des outils de télésoins. On a lancé des outils de COVID screeners et du contact tracing à l'interne de l'application. Donc, on a vraiment vite introduit des outils nécessaires pour gérer une agence de soins à domicile à travers une pandémie. Mais après les disons 6 mois où c'était vraiment difficile, là, les systèmes de santé ont vu que dans les CHSLD ou les résidences, c'est très, très difficile de faire du infection control. Malgré chez les patients, ça va beaucoup mieux. Fait que là, c'est un tailwind, je dirais. C'est, notre secteur a été aidé.
Effectivement. Donc, c'est ça souvent qu'on voit. Tout le monde a paniqué un petit peu au début, mais éventuellement, certaines organisations, certaines industries ont eu des accélérations de croissance avec la COVID. Puis je suis content d'entendre que ça a été le cas également de votre organisation. Là maintenant, bon, on le dit plus tôt, vous êtes rendu quand même à plusieurs rondes de financement. Vous êtes avancé dans l'organisation, 450 employés, vous êtes implanté sur 3 continents maintenant, on peut le dire. C'est quoi un petit peu l'avenir de Alaya Care là, dans le futur?
Donc, pour nous, c'est vraiment de continuer notre croissance. Comme vous pouvez imaginer, les États-Unis, c'est notre marché le plus intéressant, où il y a le plus de croissance. Mais pour nous, c'est vraiment une question de continuer à bâtir le produit, à livrer plus de soins sur notre plateforme. Et on a commencé à faire des acquisitions de nos concurrents l'année dernière, et on va continuer à faire ça pour accélérer.
Donc, on s'en va consolider le marché en allant faire l'acquisition de joueurs contre nous. Intéressant. Puis, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu, il va y avoir plusieurs acquisitions encore cette année, dans les années à venir? Est-ce que vous avez déjà des cibles bien établies que vous êtes en pourparler présentement?
On a des cibles. Je vais pas en dire trop. Mais c'est sûr, on est en train de faire un levée de fonds, dans Series D. On va utiliser la capitale surtout.
Intéressant. Parallèlement à tous ces projets-là, vous êtes également investisseur dans, comme je disais un petit peu plus tôt, une demi-douzaine de startups. Combien de temps à peu près vous mettez par semaine à aider ces différentes organisations-là? J'imagine que vous devez être un peu un conseiller. Vous devez recevoir des fois des emails, des appels, des PDG de ces diverses organisations-là. Combien de temps que ça prend un peu dans votre horaire, tout ça, là, d'être investisseur et d'aider ces startups technologiques-là?
Ça dépend. Il y a des compagnies où je suis plus impliqué. Par exemple, Tractic, Resolver, ChipCare, Clinic Master. Je suis sur la conseil d'administration. Donc, au moins à chaque 3 mois, je passe une demi-journée avec eux. Et il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se passe avec au moins un de ces compagnies. Il y a d'autres où c'est plus, j'ai fait un petit check et je m'implique pas trop. Mais je dirais en total, peut-être un 3-4% de ma semaine se passe avec d'autres entreprises que Calvin.
Puis est-ce que c'est quelque chose que vous voyez peut-être faire vraiment dans le futur? Est-ce que, parce qu'à un certain point, ça peut vous sortir de votre routine quotidienne, vous voyez des projets qui sont différents, ça peut-être même que ça vous donne des idées là pour Alaya Care de voir d'autres entrepreneurs dans le domaine des technologies.
C'est sûr, c'est sûr. J'essaie d'amener de la valeur, mais avec toutes mes implications, j'apprends autant que j'en sais.
Intéressant. Votre fondation maintenant, j'ai vu qu'elle a été lancée en 2009. Et corrigez-moi si je me trompe. Donc, la fondation Gillian et Adrian Sher. 2009, vous avez lancé le fonds Madero Fund. Quel est l'objectif, quelle est la vision derrière cette fondation-là?
Ah ben, je vais commencer avec une petite histoire de ma femme, Gillian. Donc, elle est médecin, elle est pédiatre. Et elle était toujours très intéressée en santé globale. Elle a travaillé en Afrique, dans plusieurs pays. Et donc, quand j'ai proposé à elle de me marier au lieu j'ai créé la fondation. Donc c'est ça le début. Puis on a essayé de combiner un peu mon expertise en logiciel, en technologie mobile, avec son expérience en global health. Fait que le Madero Fund, c'était vraiment pour rentrer des solutions pour santé des citoyens dans des compagnies, des pays moins développés pour aider avec la santé.
Puis est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce que vous y investissez un peu de temps, d'argent? Quelle est votre implication dans la fondation?
C'est ça, fait que les deux, depuis la pandémie, on a viré un peu dans notre backyard. Fait que là, il y a beaucoup de nos co-citoyens au Canada qui ont des besoins. Et là, je vois dans mon day job, je vois les personnes âgées qui sont chez eux, qui ont du social isolation. Fait qu'on supporte des initiatives un peu plus locales depuis les dernières 12 mois. Mais oui, effectivement, la Madero Fund continue et on continue d'investir.
Merveilleux. Je terminerai, Adrian, sur quelques petites questions personnelles. Est-ce que vous faites de la lecture d'affaires? Est-ce que vous lisez des livres un peu business?
Oui, j'ai récemment, je lis beaucoup de biographies de compagnies intéressantes. Les dernières, j'ai lu un sur Twitter, je ne sais pas du nom, pour l'instant, ça va revenir. Un sur, c'est intéressant, tu sais, le Dread Pirate Roberts, Silk Road. Donc, c'est pas un startup traditionnel, mais il y a de très intéressants créneaux dans toutes ces histoires-là. Fait que j'aime plus lire ça que des pure non-fiction, Good to Great. Oui, j'ai lu. Mais pour l'instant, je suis plus dans les histoires.
Les autobiographies, des fois, c'est les meilleurs livres d'affaires. Hein. C'est souvent ceux-là parce que tu es capable de voir un petit peu plus dans le concret, dans la tête d'un fondateur. Effectivement, il y a d'autres bons livres, des fois, qui sont davantage, qui vont parler de gros concepts. Mais de l'entendre des fois là, des mots du fondateur, ça fait toute la distinction là, pour la compréhension un petit peu de ce qui se déroule.
Si on parle podcast aussi.
Oui, podcast.
Beaucoup là-dedans, oui. How I Built This. Je trouve que c'est très intéressant.
OK, donc c'est quoi vos podcasts que vous écoutez le plus? How I Built This, que vous avez dit?
Oui, aussi, pas exactement dans le domaine de business, mais Sam Harris. Il y a aussi Daily Podcast, New York Times. Un peu de tout, mais c'est ça.
Non, je suis content d'entendre ça. Effectivement, des podcasts, c'est tellement un format intéressant à consommer, facile. Tu peux faire quelque chose d'autre, tu peux courir, tu peux faire de l'exercice puis écouter un podcast en même temps, ce qui est assez intéressant. Et je terminerai. Routine, ça ressemble à quoi un petit peu vos routines pour travailler? Est-ce que c'est très cordé? Est-ce qu'il y a davantage de laisser-aller que vos journées peuvent changer peut-être très très rapidement d'un avant-midi à un après-midi ou c'est très cordé vos routines?
Je dirais pas c'est très cordé. Les lignes entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont un peu blurry. Mais j'aime penser à Alaya Care. C'est juste tellement intéressant que oui, je travaille durant les heures de travail, c'est sûr. Puis ça rentre des fois dans les evenings and weekends. Mais non, ça, j'ai aussi un peu de flexibilité, pandémie ou non, de travailler quand je suis inspiré et si j'ai besoin quelque chose d'autre dans ma routine.
Merveilleux. Ben, Adrien, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur vous, sur Alaya Care, c'est où les endroits les plus faciles pour vous rejoindre?
Donc, je dirais alayacare.com, c'est sûr, ça a beaucoup d'informations sur l'entreprise. Et il y a un autre podcast que j'ai fait avec Dr. Joe Flanders, de mindfulness et l'implication dans de gérer un scale-up. Puis, je dirais ça aussi, c'est intéressant.
Ah, ben je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Intéressant. OK, merveilleux. Content de l'apprendre. Adrien, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de vous avoir prêté au jeu. Hein. C'est rare que vous faites des podcasts en français. Je suis très heureux. Et vous avez un excellent français d'ailleurs. Que vous ayez fait l'entretien avec nous aujourd'hui. C'est très, très gentil. Et ben, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. De plus en plus sur Hypercroissance, j'ai la chance de découvrir des entrepreneurs que moi-même, je ne connaissais pas avant de les interviewer. Je voudrais d'ailleurs remercier la communauté de nos auditeurs qui, à chaque semaine, viennent nous donner des noms de chefs d'entreprise qu'ils aimeraient entendre sur le podcast. Ça nous aide, nous-mêmes, à pouvoir vous offrir un contenu de meilleure qualité d'un épisode à l'autre. Également, de lancer nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement distinctes à G7 Media. On vous invite donc à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.